jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Et nous parlons de harcèlement de Samara, 14 ans à Montpellier. Tout de suite, je prends Richard. Bonjour mon cher Richard.
Bonjour Éric.
Vous êtes parent d'élève, vous avez déjà eu un enfant harcelé, vous ?
Oui, effectivement, ma fille a déjà été harcelée. Et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
Restez avec nous dans un instant, le rappel des titres avec vous Céline Landreau.
Et justement, à propos de cette affaire, comment expliquer ce déchaînement de violence? Les questions restent nombreuses après l'agression de Samara, 14 ans, devant son collège de Montpellier dans le quartier La Paya de la Mosson. Les questions nombreuses. Donc, l'adolescente pourrait apporter une partie des réponses aujourd'hui, puisque sortie des comas hier, elle doit être entendue par les enquêteurs. Trois ados, on le rappelle, sont toujours en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur. D'après sa famille, Samara était victime de harcèlement dans l'établissement, peut-être sur fond de tensions religieuses, ce que ne confirment pas à ce stade les forces de l'ordre. Emmanuel Macron lui assure n'avoir aucun doute que la Russie cible l'organisation des JO de Paris, y compris en termes informationnels. Déclaration du chef de l'État qui inaugurait ce matin un centre aquatique des JO à Saint-Denis. Emmanuel Macron qui assure que la cérémonie d'ouverture des Jeux sur la Seine reste le scénario privilégié à ce stade. La météo, Peggy, pour cet après-midi.
Avec un ciel changeant sur le nord-est entre nuages, éclaircies, averses localement orageuses et beaucoup de vent. Et une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne et va gagner également la Normandie. Sur la moitié sud, on a un temps sec et ensoleillé. Des températures qui sont douces, 15 à 18 degrés sur le nord, 18 à 25 dans le sud. Et je rappelle que Lyon et l'Aube restent en vigilance orange cru.
Merci Peggy.
Merci Peggy et à demain Céline Landreau.
À demain.
Bonjour Lisa-Marie Marquez.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
On va parler donc de harcèlement. Que s'est-il passé à Montpellier ?
D'abord, on va faire le répondeur des auditeurs.
Ah, on fait le répondeur
bah
tout
oui,
de suite.
Bien sûr, le répondeur.
Bon, bah, très bien, le répondeur, c'est parti, le répondeur.
Dans le répondeur, une réaction d'Aïcha au propos il y a quelques minutes du président Emmanuel Macron concernant la chanteuse Aya Nakamura qui a, selon lui, toute sa place pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, malgré les critiques. Aïcha est totalement d'accord avec le président de la République.
C'est pour laisser un message pour la chanteuse Aya Nakamura, pour les JO. Hein. Elle est jeune, elle représente la jeunesse, elle a une très jolie voix, une voix puissante, et elle est tout à fait capable de chanter Edith Piaf. Je la soutiens à 100%. Et Macron, il a bien fait de la choisir. Merci, au revoir.
Et je précise que ni le président ni la chanteuse n'a confirmé cette information. Enfin, c'est toujours une piste qu'elle chante à la cérémonie. Et si vous souhaitez réagir, 3210 et l'application RTL. Autre sujet au programme aujourd'hui, la colère des buralistes alors que la limite d'une cartouche par personne qu'un fumeur est autorisé à ramener de l'Union européenne vient d'être abolie. Cameron comprend cette colère des buralistes, particulièrement les buralistes frontaliers.
Vous vendez un produit en France qui est taxé, qui coûte très cher, et vous avez une concurrence, alors je ne vais pas dire déloyale, mais une concurrence maintenant qui est actée par l'Europe à quelques mètres ou quelques kilomètres de votre commerce. Je trouve ça vraiment dommage pour les buralistes et j'espère que, à la rigueur, qu'on retrouve de nouvelles activités, de nouveaux services à proposer, car sinon ça va être la mort de leur activité. Voilà, à bientôt.
Et les buralistes ont la parole sur RTL 3210 pour nous appeler. Nos standardistes, Margot, Cerise, Enzo et bien sûr Victor, attendent vos appels et vos messages.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Richard, bonjour. Vous m'appelez parce que votre fille a été victime de harcèlement, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ça s'est passé l'année scolaire 2021-2022. En fait, moi, ce que j'ai du mal à accepter, c'est que on a l'impression que à chaque fois le même scénario se reproduit. C'est-à-dire que il faut en arriver à un drame pour que les politiques s'en mêlent et fassent mine de réagir et de proposer des solutions. Mais au final, on s'aperçoit que rien ne bouge. Le problème est vraiment très ancré dans l'éducation nationale et je pense qu'il y a énormément de le périmètre à traiter est très très large. Ça passe des parents en passant par le personnel enseignant et en fait tant qu'on ne pourra pas traiter tous ces sujets, on ne pourra pas traiter le harcèlement comme il faut.
Oui, vous avez vu que la question de la protection accordée à cette jeune femme de 14 ans de ce collège qui s'appelle Arthur Rimbaud à Montpellier, elle pose question. entre autres, on l'a laissé sortir, cette jeune fille, alors qu'il y avait une bande assez conséquente de jeunes qui l'attendaient dehors et qui étaient venus pour en découdre. Je ne connais pas encore les circonstances exactes, mais c'est vrai que vous parlez des établissements scolaires, il y a souvent un sujet.
Oui, en fait, les établissements scolaires ne sont responsables que de ce qui se passe dans leur établissement et plus à l'extérieur. En fait, là, après, ils se dédouanent complètement de ce qui peut se passer, même si au final, ils sont quand même responsables. Un élève qui sort du collège et qui se fait agresser devant le collège, je suis désolé, mais le chef d'établissement, ça part de responsabilité.
Oui, tout à fait d'accord. Merci Richard. Je vais prendre Nicolas, qui est au 3210. Bonjour Nicolas.
Bonjour Eric.
Vous avez également eu une fille qui a été harcelée ?
Oui, c'est ça. Elle a été harcelée pendant plusieurs années. La première année, c'était en sixième. Alors, je veux dire, heureusement, le Covid y a mis un terme. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et puis, à la rentrée de cinquième, ça a recommencé. Et là, ça a été très, très vite réglé parce qu'on est tombé sur une principale adjointe, sur une nouvelle principale, puisque le précédent avait été un peu mis de côté suite au premier dossier qu'on avait. Qui nous a dit, mais moi, les oiseaux, ils font pas la loi chez moi. Donc, elle les a convoqués tout de suite et ça a été réglé directement. Okay. Après, je rejoins ce que disait Richard. On a toujours l'impression qu'il faut aller à la pire extrémité pour que ce soit mis en place. Là, le cas échéant, c'est que mon épouse a beaucoup viré le sujet. Quand elle a su que ça recommençait, elle a appelé la nouvelle principale. Elle est tombée sur sa secrétaire et c'était le matin. Elle lui a dit, écoutez, il est 9h du matin. Si elle ne me rappelle pas avant ce soir 18h, je porte plainte et après vous vous débrouillerez avec la police. Et là, ça a fait.
On se retrouve dans un instant, Nicolas. On me demande d'aller en publicité. Faut envoyer la pub. On se retrouve dans une poignée de secondes.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Écoutez, je laisse ce message sur votre répondeur parce que cette affaire à Montpellier est absolument révoltante, scandaleuse, écœurante. C'est à chasser, à marquer, vraiment à punir très, très sévèrement.
Patrick Tégéraud, notre correspondant dans le Sud, est avec nous. Et j'aimerais, bonjour Patrick, lui demander concrètement, pour un peu mettre tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent à niveau, lui poser la question, que s'est-il passé mardi dans le collège Arthur Rimbaud qui révolte cette dame qui vient de nous laisser un message ?
Ah, vous savez, dans ce genre d'affaires, il faut toujours être extrêmement prudent. Je ne peux vous rapporter que des témoignages que j'ai recueillis. Alors, il semble se recouper tout de même. C'est-à-dire que donc vers midi, il y a eu un début d'attroupement devant le collège Arthur Rimbaud. Un professeur, d'ailleurs le professeur principal de la classe de Samara s'en est ému. Et bon, ils ont surveillé ça d'un peu loin. Et il a fini par appeler la mère de Samara en lui disant « Voilà, il y a des gens qui attendent votre fille devant le collège ». La mère de Samara lui a dit bah « Écoutez, faites en sorte qu'elle ne sorte pas et qu'elle m'attende ». Et en fait, j'ai appris ce matin donc que, a priori, la consigne n'était pas passée, que la jeune fille, à la fin de ses cours, elle a obéi à sa maman, qui lui dit tous les jours d'aller directement à l'arrêt de bus, elle est partie vers l'arrêt de bus, et là, elle a été prise à partie par, allez, on va dire peut-être une vingtaine de personnes, dont trois étaient particulièrement virulents, et qui l'ont agressée tel que, on le sait désormais, des coups de poing, des coups de pied à la tête, sa tête projeté contre des carrosseries de voiture, projeté au sol également. Une personne s'est interposée, a laissé sa poussette avec son petit enfant pour s'interposer. Et c'est à ce moment-là que la maman de Samara est arrivée et qu'elle a récupéré sa fille toute bleue et qui a perdu connaissance en allant vers les pompiers qui lui avaient donné rendez-vous un petit peu plus loin car ils étaient déjà en chemin. Voilà. C'est assez tragique parce que, bien entendu, Samara n'avait rien demandé à personne. Mais en fait, on a découvert aussi que ça faisait depuis pratiquement son arrivée au collège, qu'elle était le souffre-douleur d'un certain nombre d'élèves, en particulier d'une fille un petit peu plus âgée, qui avait ce qu'on appelle monté des réputations, c'est-à-dire fait croire sur les réseaux sociaux qu'elle était une fille légère, qu'elle avait des rapports sexuels, qu'elle se faisait donc traiter de la sorte par d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui sont élargis, bien entendu, qui ne concernent pas que le collège Arthur Rimbaud, mais également les anciens élèves étaient partie prenante. Et on en a retrouvé d'ailleurs, paraît-il, quelques-uns lors du passage à tabac de mardi soir. Voilà en gros ce qui s'est passé. Il faut savoir que Samara est passée pas très loin de la mort. Sa maman a été
14 ans,
extrêmement choquée.
14 ans, Patrick Tégéraud.
Pas tout à fait, pas tout à fait. Enfin, on dit plutôt 13 que 14.
Elle n'a même pas 14 ans.
On n'est pas à quelques mois, on n'est pas à quelques mois près. Sa maman racontait qu'elle l'a emmenée en voiture à l'hôpital. Elle a vu qu'elle était toute bleue et elle a fait des crises d'épilepsie, ce qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle a été placée dans un coma artificiel vu son hémorragie cérébrale, parce qu'elle a eu une hémorragie cérébrale. Vraiment, on est passé à deux doigts d'un drame encore plus affreux.
Elle aura peut-être des séquelles d'ailleurs. Bon, pour l'instant, je crois
c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Sa maman est très inquiète. Elle m'a raconté avoir passé une nuit affreuse entre mardi et mercredi, en imaginant que sa fille allait peut-être mourir ou rester un légume, ce sont ses propres mots. Mais on ne sait pas encore quelles sont les séquelles qu'elle peut avoir. Elle est bien sûr particulièrement bien suivie à l'hôpital de Montpellier, qui est un des hôpitaux les plus réputés de France, dans un service dédié justement à la réanimation et au traumatisme crânien. Donc, elle a été jugée quand même relativement en forme, si je puis dire, pour répondre aux questions des enquêteurs ce matin.
Terrifiant l'histoire que vous nous racontez. Terrifiant, Patrick Tégéraud. Terrifiant, une gamine de 13 ans et demi, rouée de coups par des gens de son établissement scolaire pour la majorité. Je vais prendre Sandrine, je voudrais qu'on écoute quand même la maman de Samara, 13 ans et demi. Elle s'est exprimée au micro de nos confrères d'RTL. J'aimerais qu'on l'écoute avant de se faire une opinion.
Vous imaginez ces 30 jeunes qui étaient comme... On m'a qualifié dans ce service, on m'a dit c'était des animaux, c'est des animaux qui sont attaqués à votre fille. C'est pas une gifle, c'est pas un tirage de cheveux, c'est prendre la tête et la taper à plusieurs reprises contre le sol jusqu'à lui faire une hémorragie cérébrale. C'est fou. J'envoyais ma fille, elle était toute souriante le matin, malgré son harcèlement qu'elle subissait au quotidien, mais elle était joyeuse et je l'ai retrouvée le soir dans le coma.
Patrick Tégéraud, chez certains de nos collègues, j'ai vu que la maman de Samara disait « Ma fille de 13 ans et demi est coquette, elle s'habille à l'européenne, elle est peut-être un peu plus libérée que d'autres » et on la traitait de mécréante au collège Arthur Rimbaud. Mécréante. Vous avez entendu cela, Patrick?
Ça, c'est l'interprétation de sa maman, hein. Bien entendu, elle est tout à fait respectable, mais il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. On est avec des enfants qui ont 13, 14, 15 ans. Alors, c'est vrai que dans les collèges, on est très cruels les uns avec les autres.
Qui peuvent répéter ce que disent les parents. Ils peuvent aussi répéter
ce que disent les parents. Qui peuvent répéter, en effet, ce que disent les parents. C'est vrai aussi qu'il y a des jeunes filles qui portent le voile et qui le mettent dès la sortie de l'établissement. Ça, je l'ai constaté encore tout à l'heure. Mais
Samara, elle n'était pas voilée, hein.
Et Samara n'était pas voilée, Samara est aussi une jolie fille coquette. Oui, mais des enfants, d'autres collégiens m'ont dit, vous savez, tous les deux sont musulmans.
Oui,
donc,
tout à fait.
De là en faire une histoire religieuse, c'est peut-être un petit peu exagéré et tomber dans des interprétations qui relèvent plus de celles des adultes et peut-être même des récupérations politiques.
On va suivre ça de très près. Sandrine est avec nous, elle a fait le 3-2-1-0, c'est les auditeurs ont la parole. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Vous avez été émue par cette affaire?
Très, très émue parce que on a vécu, ma fille et moi, la même chose. Bon, ma fille surtout, puisque c'est elle qui a subi. Je voudrais tout d'abord donner tout mon soutien à la maman de Samara parce que vraiment, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu et je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne... Quand ça vous tombe dessus, ça... Waouh, c'est très, très violent. Très, très, très violent. Ma fille a été agressée lorsqu'elle sortait du collège. Aucun caractère ni politique ni religieux. Juste, elle avait regardé un garçon d'un peu trop près. Donc, depuis quelques semaines, elle recevait des SMS. J'avais appelé la maman de la jeune fille qui lui envoyait des SMS. La maman m'avait dit « Oui, ça ne se reproduira plus, etc. » Voilà. Donc, moi, je me suis dit « Ça ne se reproduira plus. » Sauf que ma fille, du coup, après, m'a caché ces SMS. Donc, je n'ai pas su que ça continuait. Et puis, un jour, lorsqu'elle est sortie du collège... Devant le collège, donc, à la sortie, elle s'est fait agresser par trois jeunes filles. Alors, peu importe d'où elle venait, c'était en l'occurrence des jeunes filles de la gitanie sédentaire de Montpellier, mais ça aurait pu être n'importe qui. Elles se sont attaquées à ma fille, et le temps que la surveillante qui était à la grille du collège se rende compte qu'il y avait un attroupement et qu'il se passait quelque chose, il s'est peut-être passé 30 secondes, le temps qu'elle arrive pour les séparer, ma fille avait la mâchoire déplacée et le tympan crevé, donc elle saignait de l'oreille, enfin bon, et elle était par terre prostrée. Donc évidemment, c'était très très violent. ce qu'elle a vécu, moi je ne l'ai pas vue, mais voilà, je l'ai subie en tant que maman dans mes chairs, quoi. Je suis allée, donc, j'ai été appelée directement par le collège, tout de suite, le CPE m'a appelée tout de suite, m'a dit, il faut que vous veniez de suite, il s'est passé quelque chose. J'y suis allée de suite, ma fille était assise sur une chaise, je me suis dit, ouf, en tout cas, elle n'est pas par terre, elle n'est pas sur une civière. La police est venue de suite, la BAC est venue de suite pour me demander si je portais plainte, donc j'ai dit, oui, je porte plainte, évidemment, je porte plainte. Le collège m'a dit, vous savez, ça s'est passé à l'extérieur, on ne sait pas qui... J'ai dit, je ne veux pas savoir de qui est la responsabilité. Moi, ce que je veux comprendre, c'est ce qui s'est passé, d'une part, et d'autre part, ces jeunes filles, elles doivent prendre la mesure de ce qu'elles ont fait. Elles ont fait quelque chose de grave, et je veux que les parents soient au courant aussi. Je veux que les parents le sachent. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on est allé chez le médecin, donc le médecin a constaté, il était, je ne sais plus combien, 8 jours, 10 jours, je ne sais plus. Et en revanche, on a dû ensuite aller, comme j'ai maintenu ma plainte, j'ai dû aller chez le médecin légiste avec ma fille, donc à l'hôpital. Et je peux vous avouer que le médecin légiste, vous imaginez, vous voyez les séries à la télévision, ça se passe dans la morgue. Et vous avez les médecins qui passent à côté. « Ah, tu as ramassé le macabé de ce matin. » Et c'était, pour ma fille, les paroles et la vision, c'était encore
absolument traumatisé. Restez avec nous, Sandrine, cette histoire est dingue d'ailleurs, parce que vous allez nous dire, restez, hein, voilà, vous allez nous dire si finalement ces trois jeunes filles qui ont frappé à coups de poing et de pied votre fille ont été jugées et condamnées. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, Julien de Nîmes. Quand j'entends cette agression de cette adolescente à Montpellier, moi personnellement, ça me retourne le cœur. Il n'y a plus d'humanité.
Voilà, cette adolescente de 13 ans et demi, Samara, rouée de coups, gravement blessée à la sortie des cours devant son collège Arthur Rimbaud. Elle est à peine sortie du coma et ses jours ne sont plus en danger. Et je crois, Patrick Tégéraud d'ailleurs, notre correspondant dans le Sud, je crois qu'elle serait entendue aujourd'hui, en ce moment, ou peut-être ce matin, par les policiers. C'est bien cela, Patrick ?
Oui, c'est cela, après avoir été vu par le médecin légiste, hein, qui a pu déterminer si oui ou non elle était en état de prendre la parole devant les enquêteurs. Eh bien, les enquêteurs, ce matin, devaient passer un moment avec elle, donc toujours dans le service de réanimation, pour entendre sa version des faits.
Oui, vous avez des témoignages à nous faire écouter, Patrick ?
Alors, je les ai pas montés à votre disposition là. Oui. Je ne suis censé qu'intervenir par ma douce voix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, pour ce qui est de l'agression et des agresseurs, les jeunes garçons que j'ai croisés ce matin m'ont dit que voilà, ceux qu'ils connaissaient avoir participé à ce lynchage, de près ou de loin, en fait, pour eux, les gars me disaient, pour eux, ce n'était qu'un jeu. Oui. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que on a une exacerbation de la violence par les réseaux sociaux et une banalisation au final.
Oui.
Et ces gamins-là ne savent vraiment pas ce qu'ils font, quoi.
Oui, enfin, se méfier aussi, Patrick, de la parole des gamins qui donnent des coups de pied au visage. Et qui disent, mais non, c'était qu'un jeu. Là, il y a quand même, vous imaginez.
Il aurait pu y avoir une issue fatale.
Ouais. Merci, Patrick, pour tous ces témoignages. Nicolas est avec nous. Non, je voudrais juste qu'on termine avec Sandrine. On a écouté cette l'histoire de harcèlement de sa fille. Sandrine était émue aux larmes tout à l'heure, parce que dans ce qui est arrivé à Samara, 13 ans et demi à Montpellier, elle s'est un peu reconnue, même si c'est pas tout à fait les mêmes faits. À la fin, ces trois jeunes filles qui ont agressé devant l'établissement scolaire votre fille Sandrine, à la fin des fins, est-ce qu'elles ont été condamnées ?
Alors, tout à fait, parce que moi, j'ai maintenu ma plainte. On a essayé subtilement de m'en empêcher, parce qu'on m'a dit, vous comprenez, c'est une enfant qui est battue. Et puis, comme elle fait partie de la Gitanie, elle va être battue par le chef de tribu, parce qu'il paraît qu'il y a des chefs de tribu. Moi, j'ai maintenu la plainte parce que pour ma fille, c'était très important, non plus qu'elle soit coupable, mais qu'elle soit victime. Et c'était ça le plus important. Et j'ai pris une avocate qui m'a dit, il n'y a aucun souci, on va aller jusqu'au bout et on mettra le temps qu'il faudra pour que l'agresseuse principale ait l'âge d'avoir une condamnation, quelle qu'elle soit. Et donc, ça a pris du temps, ça a pris 2 ans. Ma fille a fait d'ailleurs 2 ans de psychologie, hein, parce que ça a été vraiment très violent, cette affaire. Et au bout de 2 ans, on a obtenu gain de cause, effectivement. elle est passée au tribunal avec ses parents. Et en fait, malheureusement, ces gens-là, je suis désolée de le dire, hein, mais c'est au portefeuille qu'il faut les toucher, et c'est au portefeuille que ça fonctionne. Et je suis désolée de ça, parce que j'aurais tellement voulu.
Et finalement, elle a été
condamnée à des travaux d'intérêt généraux.
Oui,
et donc les parents ont été condamnés à payer tous les frais qui avaient été engendrés, y compris les séances de psychologie, etc.
D'accord.
Etc.
D'accord, Sandrine, merci de ce témoignage.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. Votre fille va mieux maintenant ou elle a toujours ce souvenir?
Non, elle va mieux. Je peux vous dire que quand elle a reçu le résultat de la condamnation, elle a sauté au plafond. Hein, parce qu'enfin, elle était victime. Et ça, c'est très, très important.
Merci.
Très important. Elle n'était coupable de rien.
Merci.
Et bon courage à Samara, en tout cas, et à sa maman.
Merci beaucoup Sandrine, c'est fou ces faits de violence que vous nous racontez devant les établissements scolaires dans ce doux pays de France. Sylvie a fait le 32-10, je crois qu'elle est enseignante. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Vous avez vu là, manifestement, le prof principal a quand même appelé la maman de Samara.
Oui.
Elle m'a dit bon, bah, surtout garder ma fille dans l'établissement. Et puis non, ça n'a pas marché. Elle est sortie, elle s'est fait. Il y avait une trentaine de personnes, selon sa maman, hein, qui l'attendaient pour la. Qu'est-ce que je peux dire? Pour lui casser la figure.
Ah oui. Mais l'effet de groupe, c'est terrible, hein, parce que parfois vous avez simplement un élément pourri qui va entraîner avec elle ou avec lui d'autres personnes et qui seront là spectateurs. Et ça va beaucoup les amuser. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est... il faut taper fort. Il faut taper très fort. Pas attendre, comme disait la maman précédente. Son affaire a pris quand même 2 ans. C'est énorme.
Oui.
C'est énorme. Il faut être beaucoup plus réactif et les sortir déjà de l'école immédiatement. Parce que des jeunes comme ça, ils sont dangereux pour les autres.
Oui. Oui, Patrick Tégéraud, notre correspondant dans le Sud. Patrick, vous voulez réagir?
Oui, je crois que la sévérité a été prise en compte déjà par les magistrats, puisque le parquet de Montpellier faisait savoir hier que donc 3 jeunes, une jeune fille de 15 ans, un garçon de 14 et l'autre de 15 ans, sont entendus pour une tentative de meurtre. Pour tentative de meurtre, pas coup et blessure volontaire. Non, tentative de meurtre sur un enfant de moins de 15 ans.
Oui.
Ça, c'est important. C'est vous dire que la justice prend la mesure de ce qui s'est passé,
oui.
Prend la mesure du guet-apens, prend la mesure de la préméditation.
Tout à fait. Donc ça, c'est important. Je rappelle que sur le deuxième point, on ne sait pas grand-chose encore. La maman de Samara a dit « Ma fille était coquette, on la traitait de mécréante. S'agit-il d'une vengeance sur fond religieux ?» On n'en sait strictement rien. Il y a le commentaire de la maman. Pour l'instant, on ne va pas pédaler plus vite que l'histoire. Les policiers sont en train d'écouter cette jeune femme de 13 ans et demi. Et la sévérité m'a l'air d'actualité, ce qui est quand même une bonne chose. Vient de nous rappeler Patrick Tégéraud. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je trouve scandaleux ce qui est arrivé à cette petite jeune fille. Et encore plus scandaleux que le proviseur qui a averti la maman comme quoi il y avait des jeunes qui attendaient sa fille à l'extérieur, n'ait pas gardé cet enfant jusqu'à l'arrivée de ses parents. Ça, c'est inadmissible. Le harcèlement, c'est plus possible. Merci, au revoir.
Voilà, Samara, 13 ans et demi, rouée de coups, gravement blessée à la sortie des cours dans le collège Arthur Rimbaud. Elle est à peine sortie du coma. Ses jours, apparemment, ne sont plus en danger. Elle serait entendue aujourd'hui par les enquêteurs. On a, j'imagine, beaucoup de messages, mon cher Victor, au standard.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Beaucoup de messages au standard et sur notre application RTL. On commence avec celui de Philippe dans le Jura. Un principal de collège m'a dit que certains chefs d'établissement sont réticents à signaler les faits de harcèlement car ce n'est pas bon pour l'avancement de leur carrière. Pascal, avec un E de Douai, c'est inadmissible ce qui s'est passé à Montpellier. Pour moi, la responsabilité du proviseur et de l'encadrement du collège sont mis en cause. Et puis on en parle tout à l'heure, Eric, les buralistes sont en colère depuis que le nombre de cartouches qu'on peut ramener d'un pays frontalier n'est plus limité. illimité. Frédéric nous a écrit: la cartouche 125€ en France, 53 en Espagne. On ne peut pas reprocher aux consommateurs de vouloir faire des économies. Vous aussi, réagissez au 3210. Cerise, Margot et Enzo vous attendent.
Oui, on en parle dans un instant de la cigarette et du prix de la cartouche. La concurrence déloyale, entre guillemets, des pays de l'Union européenne. Sylvie est avec nous. Alors Sylvie, elle est enseignante. Vous avez entendu Huguette qui dit c'est pas normal, c'est scandaleux que le proviseur ait laissé sortir cette petite fille. Il y avait 30 personnes qui l'attendaient à la sortie de l'établissement pour la rouer de coups.
Alors, là, c'est dur de réagir parce qu'on n'a pas, le contexte. Est-ce qu'il y a eu un défaut de communication? Ça, on ne sait pas. C'est difficile de réagir là-dessus.
À mon avis, c'est certain qu'il y a eu un défaut de communication.
Oui.
Le proviseur l'avait su, à mon avis, hein, ce n'est qu'un modeste avis, il ne l'aurait jamais autorisé. 30 personnes, c'est une masse considérable hostile, c'est un groupe, une foule, on ne l'aurait pas laissé sortir.
Oui. Parce que moi, je sais que j'ai eu, il y a quelques années, un cas de harcèlement dans une de mes classes. Alors, au lycée, c'est quand même beaucoup plus rare. Hein.
Oui.
Moi, j'en ai parlé tout de suite à mon proviseur, qui a été hyper réactif. La personne qui harcelait a été immédiatement convoquée et on lui a mis les choses au clair tout de suite, quoi. Et puis le motif de harcèlement, là, on parle de que c'est peut-être quelque chose de religieux, mais peu importe.
On ne sait pas, on n'est pas sûr, mais peut-être, oui.
Oui,
on
voilà. Est pas sûr, oui. Mais de toute façon, peu importe le motif, des fois, il y a un gamin qui se fait harceler simplement parce que sa tête ne revient pas à celui qui le harcèle.
Oui, mais n'importe quoi. Hein. Un type qui a des lunettes, on le harcèle parce qu'on l'appelle, on l'appelle l'intellectuel. Ça, n'importe quelle raison.
Oui, ouais. Moi,
j'ai connu une personne qui me disait que son fils faisait exprès d'avoir des mauvaises notes à l'école pour ne plus être la risée, l'intellectuel de la classe.
Ah oui, oui, parce que aujourd'hui, il faut limite avoir honte d'être un bon élève.
Ouais.
Voilà. Par exemple, quand les secondes arrivent en tout début d'année, il y a certains élèves, je peux presque deviner si c'est des jeunes qui ont été harcelés au collège. Parce qu'on les voit, ils sont repliés sur eux-mêmes, sont des jeunes qui ne parlent pas beaucoup, qui sont pas trop en relation avec les autres. Et parfois, quand j'en discute avec eux, en creusant un tout petit peu, ils me le disent. J'ai été harcelée au collège, mais il faut que ça s'arrête et il faut être beaucoup plus sévère. Même une remarque déplacée doit être sanctionnée tout de suite.
Ouais. Nicolas, je vous ai pris tout à l'heure, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Vous, c'est votre fille, disiez-vous, qui a été harcelée il y a 4 ans, et ça a duré 2-3 années à peu près. Hein.
C'est ça, ça a duré 2 ans. Enfin, le harcèlement a duré 2 ans. Après, on est tombé sur la première année, on est tombé sur un principal sur une équipe qui voulait pas entendre parler. Carrément. Et j'ai même eu un message sur ma boîte vocale de la CPE qui disait on n'est pas vraiment dans un cas de harcèlement. Et quand je lui ai rediffusé pendant une réunion, elle m'a reproché de l'avoir enregistré. La deuxième année, on est tombé sur une principale qui, là, a vraiment mis tout de suite les barres au dé. Et ça s'est tout de suite soldé. Par contre, on a quand même eu droit à une équipe pédagogique très. Je ne sais pas si elle était incapable de prendre le sujet en charge ou s'il ne voulait pas. Mais 2 ans après, quand ma fille est en troisième, la même CPE lui a quand même reproché d'être présente sur des réseaux sociaux et a ponctué sa phrase en disant toi qui es sujet au harcèlement, tu pourrais éviter d'être là-dedans. Donc, si vous voulez, même 2 ans après, on est encore dans le harcelé. Et n'est pas la victime.
J'aime bien la formule, toi qui es sujet au harcèlement.
C'est hallucinant. C'est ça. Alors si vous voulez, derrière...
On est sujet, je sais pas, aux allergies des poils de chat, mais on n'est pas sujet au harcèlement. Qu'est-ce que c'est que cette formule, Nicolas?
Et bah derrière, ma femme, on avait plus que marre, elle a envoyé un courrier au proviseur en disant que la CPE était juste une abrutie et qu'il fallait peut-être revoir... Penser à une reconversion parce que
c'est pas la bonne méthode non plus. En 10 secondes, comment résumer le harcèlement d'une enfant en 10 secondes? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait subir à votre fille au collège?
Ah bah, elle s'appelait Sacha, donc je vous laisse imaginer le jeu de mots qu'il pouvait y avoir avec son prénom. On prenait son sac, on le jetait dans les buissons. Elle allait manger à la cantine avec ses copines, on lui jetait de la nourriture. Et comble du bonheur, quand la surveillante arrivait, vous voyez qu'il y avait deux tables qui se jetaient de la nourriture, les deux tables restaient pour nettoyer la cantine. Donc ma fille, en plus de ne pas avoir pu manger tranquillement, se retrouvait à nettoyer la cantine.
Bien, merci Nicolas. Voilà, cette immersion dans le monde du harcèlement fait du bien parce que c'est assez lointain, hein, quand on n'a pas d'enfants harcelés, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens à problème, voilà. Ben non, vous voyez, c'est des gens comme vous et moi, des parents qui se retrouvent en situation de désespoir, parce que pendant un an, deux ans, trois ans, pour on ne sait quoi, leurs enfants sont harcelés. Et un enfant, un ado harcelé, c'est terrible. C'est terrible, ça. Il est détruit. Merci Nicolas, merci à tous. J'espère que la petite Samara à Montpellier, 13 ans et demi, va revoir le soleil, la lumière, et qu'elle ira mieux un jour, parce qu'il va falloir qu'elle digère tout cela. Dans un instant, la colère des buralistes, la limite d'une cartouche par personne vient d'être abolie. Voilà, on pourra maintenant aller à l'étranger, dans les pays de l'Union Européenne, acheter 2, 3, 4 cartouches sans que les douaniers vous embêtent. Et ça, les buralistes n'aiment pas du tout. Ils sont même en colère. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Alors Lisa Marie, pourquoi les buralistes français sont en colère?
Eh bien, jusqu'à présent, il faut savoir que les particuliers majeurs qui voyageaient dans un pays de l'Union européenne étaient autorisés à ramener 200 cigarettes, soit une cartouche, mais également 50 cigares, 250 grammes de tabac à fumer et 100 cigarillos. Et
donc, au-delà d'une cartouche qu'on rapportait par exemple du Luxembourg, d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, au-delà d'une cartouche, c'était illégal.
Absolument, et le gouvernement a pris un décret vendredi dernier qui abolit cette limite d'une cartouche au retour d'un pays européen. Le Conseil d'État l'avait sommé de mettre la réglementation française en conformité avec le droit européen. Désormais, le niveau à partir duquel les douanes peuvent considérer que ce que vous avez acheté n'est pas pour une consommation personnelle, eh bien, désormais ce niveau est fixé à 800 cigarettes, c'est-à-dire 4 cartouches, 400 cigarillos, 200 cigares et 1 kilo de tabac à fumer.
Les buralistes... Donc en cas de contrôle, si je ramène 4 cartouches de Belgique,
c'est okay.
Ou d'Espagne, c'est
okay. Si les douaniers vous contrôlent, il n'y a pas de problème. Et les buralistes français craignent que cette décision n'encourage la contrebande et le commerce frontalier, d'autant que les cigarettes dans les autres pays européens sont vendues moins chères qu'en bureau de tabac français. C'est d'ailleurs en France que le prix du tabac est le plus élevé d'Europe.
Imagine... Un monsieur qui fume un paquet de Marlboro. Les Marlboro sont à 12,50 € me semble-t-il en France, alors qu'en Allemagne elles sont à
8 €.
8 €, bah oui. Tout est dit. On va retrouver Laurent, il a fait le 32-10, mon cher Laurent. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Qui est Laurent?
Alors je suis un ancien buraliste et peut-être que je vais le redevenir bientôt. Que dire de plus, si ce n'est que je constate encore une fois la stupidité crasse de la politique sur le tabac et les addictions qui est appliquée depuis des années. C'est une stupidité crasse. On sait depuis 20 ans que les gens, ils vont en dehors, ils vont en Espagne, ils vont en Belgique, ils vont faire des week-ends où ils vont acheter de l'alcool et du tabac. On le sait. Il y a même les Luxembourgeois qui ont fait des manifestations parce qu'il y a trop de Français dans les stations-service au Luxembourg et que les Luxembourgeois, ils attendent trop à la pompe à essence parce que les Français achètent leur tabac.
Vous savez que le trafic parallèle, Laurent, que vous évoquez, vous, ancien buraliste, je viens de vérifier, c'est 35% des ventes de cigarettes en France. 35% des ventes de cigarettes, ça vient de ce trafic.
Oui, et alors il n'y a pas que ça, c'est parce que là vous avez les achats transfrontaliers qui concernent notre sujet d'aujourd'hui, mais vous avez aussi la contrefaçon de tabac qui représente la moitié de ces 35 et presque 40%, parce qu'on a des chiffres plus récents. Et ça, la contrefaçon, c'est fabriqué dans des usines clandestines à des conditions d'insalubrité crasse, et c'est vendu près des gares, des RER, en région parisienne, dans toutes les grandes villes, par des populations de pauvres migrants qui cherchent à gagner 3 sous. Et aujourd'hui, on est à presque 40% des cigarettes fumées en France qui sont achetées en dehors du réseau achat transfrontalier, etc.
Donc il vaut mieux être buraliste, au moins d'une frontière, quoi, Clermont-Ferrand, à Nevers.
Il n'y a plus de frontière. La frontière aujourd'hui, c'est Facebook et c'est la gare RER à côté de chez vous.
Ah oui, d'accord.
Quand vous allez dans une gare RER aujourd'hui, banlieue parisienne, vous avez 10, 20, 30 vendeurs à la sauvette qui vous interpellent pour acheter des cigarettes à 5 euros le paquet, quand le buraliste, lui, à côté, le paquet était à 12,50, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric. Donc, aujourd'hui, on va vers une cigarette sur deux bientôt achetée en dehors du réseau. C'est une évasion fiscale colossale. On enrichit les mafias, on enrichit la Belgique, on enrichit Andorre, on enrichit l'Espagne. Je peux vous dire que les Espagnols, ils ont vendu 200 licences aux enchères de Tabacos il y a un an en Espagne pour que les Français puissent acheter.
C'est fou.
Les étrangers.
Donc quand on est en Espagne, le super bon plan, c'est d'acheter un bureau de tabac pas trop loin de la frontière française. Ça, c'est le super bon plan.
Oui.
Ça se vend très cher parce que là, on est sûr d'avoir une clientèle gigantesque.
Et j'ai envie de dire, la dernière belle année qu'on a fait, nous, les buralistes, c'était 2020, confinement. Pourquoi ? Parce que les frontières étaient fermées et nous, on a eu une recrudescence des ventes de tabac parce que tous ceux qui achètent à l'étranger ne pouvaient pas. Et le jour où les frontières ont été réouvertes après les confinements, il y a eu des files d'attente phénoménales dans les pays étrangers, avec tous les Français qui se ruaient pour aller acheter des cigarettes à bas prix.
Voilà, et des cigarettes sur lesquelles...
C'est un scandale parce qu'on enrichit les trésors publics étrangers, on enrichit les mafias, parce qu'aujourd'hui, les mafias, le système de vente de tabac de contrefaçon est organisé en mafia, avec le même système que les dealers, exactement les mêmes, et on enrichit les mafias, on enrichit le terrorisme, et nous, on ferme des bureaux de tabac. Moi, je peux vous présenter, Eric, si vous, un jour, vous voulez faire un reportage, je peux vous montrer des buralistes qui ont 15 vendeurs à la sauvette devant eux, devant leur bureau de tabac. Je peux vous amener dans des dizaines et des dizaines d'endroits où vous avez tous ces trafics. Et ça, il faut le dire, c'est la faute de l'État français qui a passé le paquet de 7 euros en 2017 à 12,50.
Ouais, c'est considérable. Restez avec nous, Laurent. Il est en colère, Laurent, mais en même temps, il a raison, c'est tellement révoltant. Restez avec nous.
Et les gens n'arrêtent pas de fumer pour...
je fais tourner la parole et je salue Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Eric.
Vous faites pas une chose aussi terrible, vous, Stéphane, aller acheter vos cigarettes à l'étranger?
Bien sûr que si, évidemment.
Allez me raconter ça tout de suite. Et si Laurent est en colère, vous vous débrouillerez avec lui. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Eric Brunet sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
La règle a changé, mesdames, messieurs. Maintenant, on peut acheter jusqu'à 4 paquets de cigarettes à l'étranger, hein, en Espagne, en Italie, dans un pays de l'Union européenne, bien sûr, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne. Avant, c'était maintenant c'est 4 cartouches, 4 cartouches, pas 4 paquets de cigarettes, 4 cartouches. C'est autorisé, c'est comme ça, et les fumeurs ont l'air plutôt heureux. Stéphane est avec nous. Stéphane, vous êtes fumeur, vous ?
Oui, bien sûr, oui.
Et alors, ça vous plaît, cette mesure ?
Ça me plaît. De toute façon, on n'a pas le choix. C'était la réglementation. Hein.
Ouais.
Même avant, on faisait avec et on trouvait toujours des solutions.
Ouais. Vous allez acheter vos cigarettes où, quand vous pouvez quitter la France ?
C'est au Luxembourg.
Au Luxembourg.
Oui.
Donnez-moi un exemple de tarif, de prix.
Bon, moi, c'est beaucoup du tabac roulé, donc en moyenne, je crois que le paquet de tabac roulé de marque, bon, je ne vais pas dire la marque, était autour de une vingtaine d'euros, je crois, à peu près, et pour 38 grammes. Et donc, au Luxembourg, c'est 200 grammes pour 28 euros, je crois. Donc,
ouais.
C'est vite fait, hein.
Ah ouais, le calcul est vite fait.
Bien sûr. Le
calcul est vite fait. Vous vous rendez compte que vous êtes un des acteurs qui contribue à la mort du petit commerce et des buralistes français?
Le principal acteur, c'est pas moi ni les autres fumeurs qui allons hors frontières. C'est surtout l'État qui a imposé des taxes énormes, mais gigantesques, sur un produit qui rapporte des millions à tout le monde. Comme disait l'auditeur avant, il a entièrement raison. Là-dessus, je le rejoins. C'est un problème de taxes. C'est uniquement ça le problème. Sinon, pourquoi j'irai acheter du tabac au Luxembourg? Si on sera aligné au prix de l'Allemagne, moi, je prendrai mon tabac chez moi. Hein. Bon, le buraliste me dérange pas. Hein.
Laurent, qui est avec nous, l'ancien buraliste, vous entendez, vous comprenez, Laurent, la position de Stéphane?
Écoutez, Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Stéphane. C'est pas Stéphane que je blâme. Stéphane est, je pense, un Français peut-être moyen, qui n'est pas très riche, qui doit compter ses sous, et comme des millions et des millions de fumeurs. Et donc, moi, je le comprends absolument. Et Stéphane a raison. C'est l'État français, en augmentant le paquet de 7 euros en 2017 à 12,50 maintenant, qui est le responsable de cette hémorragie. Mmh. Et Stéphane est la preuve vivante que pour la politique de santé, ça ne marche pas. On a beau passer le paquet à 12,50, les gens, ils se fournissent ailleurs. Ils se fournissent au Luxembourg, ils se fournissent chez les vendeurs à la sauvette, ça ne marche pas leur truc. Par contre, ils arrivent quand même à gratter quelques taxes. On est à plus de 15 milliards d'euros de taxes collectées sur le tabac, ce qui représente plus que le budget du ministère de la Justice. Mais, on a une évaporation, parce que quand vous dites 35, voire 40% de marché parallèle, achat transfrontalier et contrefaçon, ça veut dire qu'on est environ entre 5 et 6 milliards d'érosion fiscale.
Oui.
C'est terrible, c'est de l'argent qu'on ne sort pas par les fenêtres et les gens n'arrêtent pas de fumer. Mmh. Car la seule chose qui a révolutionné d'un point de vue santé publique, c'est la cigarette électronique depuis 15 ans. Mmh. C'est un autre sujet.
Restez avec nous Laurent, j'ai Philippe tiens, qui a fait le 32-10. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Monsieur Brunet.
Fumeur.
Et bonjour aux auditeurs d'RTL. Oui, fumeur, tout à fait. Oui.
Vous faites comment pour vos achats de tabac ?
Alors, j'ai changé plusieurs fois de technique. C'est-à-dire que quand auparavant on pouvait ramener plusieurs cartouches du Luxembourg, j'allais au Luxembourg. Et puis, quand il y a eu la restriction, même si les buralistes au Luxembourg nous disaient, mais vous savez, la France n'a absolument pas le droit de contrecarrer les accords de Schengen qu'elle a signés, elle va être amendable. Et je pense que vos auditeurs doivent savoir, vu qu'ils payent des impôts, qu'ils ont certainement contribué à ce que la France paye les amendes quand elle était hors la loi.
Mmh. Ouais, oui.
Donc quand il y a eu cette restriction, ça ne valait plus le coup d'aller au Luxembourg. Donc, j'ai malheureusement acheté des cigarettes en réseau parallèle.
Vous avez raison, quand la France et vos buralistes luxembourgeois avaient raison, quand la France était à un paquet maximum acheté à l'étranger, la France était hors la loi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas une nouvelle loi. Elle se conforme à la loi européenne en disant on autorise maintenant à aller acheter jusqu'à 4 paquets dans un pays frontalier où, de toute façon, par définition, les fiscalités portant sur les cigarettes ou sur le tabac roulé, sont moins élevés que chez nous. Merci Philippe.
Tout à fait. Je vous en prie.
Merci Philippe, merci Laurent, notre buraliste en colère. Merci Stéphane, merci les amis. Il y a Jean-Alphonse Richard qui rentre dans le studio et quand il arrive, je me glace, je me fige. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Éric Brunet.
Question tout de suite dans l'heure du crime.
Dans l'heure du crime, écoutez, je vais vous parler d'une affaire qui est l'affaire Nathalie Espagnier. C'est un cold case. Une mère de famille de 23 ans, elle était enceinte de 8 mois et demi quand on l'a retrouvée morte près d'un étang en Gironde, pas très loin du bassin d'Arcachon. C'était en 1994. Alors les gendarmes vont se plonger pendant des mois dans les méandres d'une famille divisée. Vous savez, c'est souvent les proches qui sont les premiers suspectés. Selon eux, il faut chercher dans ce cercle familial le meurtrier, pourquoi pas d'ailleurs le compagnon de cette jeune femme. Ils vont aussi s'apercevoir que, plus bizarrement, Nathalie Espagnier menaçait peut-être de révéler un secret de famille. Mais quel est ce secret ? Eh bien, les gendarmes vont essayer de le savoir. Qui a tué Nathalie Espagnier ? C'est à 14h30 et c'est l'enquête inédite, évidemment, de l'heure du crime et toujours en direct chez nous.
Eh bien, nous serons à l'écoute, bien évidemment, dans un instant, mesdames, messieurs, figurez-vous que le président de la République, Emmanuel Macron, ce matin a reparlé d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ah, 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 on en parle, vous nous appelez. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir ? Ça fait un moment qu'on parle d'Aya Nakamura, cette chanteuse franco-malienne, hein, qui est la chanteuse la plus connue française dans le monde en ce moment, celle dont on achète le plus les chansons sur les plateformes. Bon, vous y avez repensé, Aya Nakamura ? Votre avis a changé ? Vous êtes favorable à ce que ce soit elle qui chante pour la cérémonie d'ouverture des JO ? 32-10, à tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
Chez Confort.
RTL.
RTL, les auditeurs ont la parole. Vous devez savoir qu'il est tout juste 14h. Et c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Lisa Marie Marquez. On commence par Samara, un peu moins de 14 ans. Cette jeune collégienne a été agressée à la sortie de son collège. C'était à Montpellier et elle serait en ce moment entendue par les policiers.
L'adolescente a été rouée de coups, gravement blessée à la sortie des cours devant le collège Arthur Rimbaud. Elle est à peine sortie du coma et ses jours ne sont plus en danger. Elle est entendue aujourd'hui par les enquêteurs. La mère de Samara dit que sa fille était persécutée depuis plusieurs mois. Elle affirme que Samara a été traitée de mécréante parce qu'elle se maquillait. Pour l'instant, l'enquête ne permet pas de confirmer sa version.
Emmanuel Macron, le président de la République, inaugurait ce matin le centre aquatique de Saint-Denis qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon, de water-polo pour les Jeux Olympiques de Paris.
Oui, le président de la République a confirmé que la cérémonie d'ouverture se tiendrait bien sur la Seine et les quais de Paris malgré la menace d'attentat. Par ailleurs, il s'est exprimé sur l'éventuelle présence d'Aya Nakamura à cette cérémonie.
C'est une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose parce que ces Jeux doivent nous ressembler.
Streamer, l'artiste la plus streamée française, a dit le président de la République. C'est quoi streamer?
C'est la plus écoutée sur les plateformes.
Voilà. C'est une information majeure. Hein.
Mm-hmm, c'est
aujourd'hui, en 2024, c'est l'artiste française la plus écoutée sur les plateformes. Le président américain Joe Biden et Benjamin Netanyahou, l'israélien, doivent s'entretenir au téléphone aujourd'hui.
Oui, la colère américaine et mondiale ne retombe pas après la mort de 7 travailleurs humanitaires à Gaza, tués par des missiles de l'armée israélienne. Les excuses et les explications d'Israël sont pour l'instant insuffisantes.
Et puis tout de suite, avant de retrouver nos auditeurs, un point sur la météo.
Demain, sur un tiers nord du pays, du nord de la Loire à la Belgique, le ciel sera encore nuageux avec de faibles averses et du vent. Sur les deux tiers sud, un temps sec et assez ensoleillé finira par s'imposer et les températures remonteront, 8 à 13 degrés en général le matin et même 19 degrés attendus à Biarritz.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Oh, cha cha. Et oh, cha cha.
Oh, cha cha. Y'a pas moyen, cha cha. J'suis pas ta cata, cha cha.
Vous écoutez Aya Nakamura, les amis. Aya Nakamura qui a été encore pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Paris 2024 cet été, rien d'officiel. Ça a été évoqué une fois par le président de la République, puis une deuxième fois ce matin par le président de la République. Mais ce que veut le président de la République, on peut imaginer que l'organisation des JO de Paris le voudra aussi. Hein. Donc il y a une grande chance que ce soit elle, à mon avis.
Si elle accepte, bien sûr, parce que pour le moment, elle ne s'est pas vraiment exprimée sur ce sujet.
Voilà. Thierry, bonjour mon cher Thierry.
Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe.
Vous connaissez Aya Nakamura, vous écoutez Aya Nakamura?
Je connais mais je n'écoute pas. J'ai écouté certaines chansons en essayant de comprendre. Simplement, j'étais déjà passé il y a quelques temps, quand le thème avait été évoqué.
Oui. On en avait parlé la première fois qu'Emmanuel Macron avait dit « Je souhaiterais que ce soit Aya Nakamura qui chante pour la cérémonie ». On en avait parlé, oui, dans les auditeurs.
On en avait parlé, j'étais passé, j'avais conversé avec vous, ou Vincent, je ne sais plus, mais bon. Toujours est-il que moi je reste sur ma position. C'est quelque chose d'imposé de la part du président. Et en sachant pertinemment de sa part que ça aurait créé polémique. Comme je le précise à chaque fois, aucun racisme de ma part, mais lorsque l'on va parler d'une personne de couleur et qu'on va la critiquer, on va se faire traiter de raciste. Ça, c'est automatique, c'est dans les mœurs maintenant. Quand on parle justement de Aya Nakamura, qui est une vedette internationale, oui, peut-être, mais parce que je veux pas non plus exagérer, mais déjà que quand elle chante en français, on comprend pas tout. Alors imaginez, c'est sûr que les étrangers ne comprenant pas le français comprennent encore moins. On est d'accord. En même temps, c'est la façon dont c'est amené. Quand il dit que c'est pour représenter la France, c'est pas parce qu'elle est de couleur de peau noire, hein, ça n'a rien à voir là-dessus. Pour moi, elle représente plus la jeunesse, puisque c'est la jeunesse qui écoute plus ses tubes ou ses chansons. sur les plateformes. Est-ce que les plus anciens leur ont demandé leur avis? Est-ce qu'ils se sentent représentés par Aya Nakamura? Je ne pense pas. Donc, pour moi, le président, il impose sa décision, il impose ce qu'il veut, et sans concerter les gens. C'est qu'il aurait pu peut-être demander est-ce que ça peut le faire? Non, c'est elle va faire l'ouverture des jeux. Qu'elle soit avec d'autres chanteuses ou d'autres chanteurs, c'est elle qui fait l'ouverture. Parce qu'il y a d'autres chanteuses françaises qui peuvent peut-être plus représenter par les paroles et par leur voix et leur façon de chanter. Comme je disais l'autre fois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, Chimène Badi, mais on m'a dit que c'était pas une vedette internationale. Rien n'empêche qu'au monde entier, Chimène Badi, qui a fait un album sur Edith Piaf et qui le chante merveilleusement bien, elle aurait pu faire l'ouverture des jeux. Et ça aurait été une voix claire, une voix limpide, et c'est très beau ce qu'elle chante. Oui. Après, il y a Clara Luciani, il y a Louane aussi qui aurait pu interpréter. C'est pas parce que c'est une vedette internationale. Au contraire, c'était l'occasion de montrer une chanteuse méconnue internationalement.
Mais Thierry, je vous écoute, hein, je vous laisse filer, ouais, là, argumenter. Je me dis que nous sommes tous, l'être humain est souvent fait comme ça, hostile au changement. Et peut-être que cette Aya Nakamura, elle va tout déchirer si elle chante pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je suis comme vous, moi je trouve que c'est de la bonne pop, le rythme est bon, etc. Je comprends pas toujours les paroles parce qu'elle fait...
Ouais.
Ouais, mais bon, en même temps, si c'est une star mondiale, ça n'est pas anodin, c'est peut-être... elle a peut-être beaucoup de talent. Nous avons notre chroniqueur culture à RTL, puisqu'il était question... On m'a dit qu'on a retrouvé le son. Écoutez, il était question au début qu'elle chante une chanson d'Edith Piaf, ou qu'en tout cas à la cérémonie d'ouverture, il y ait une chanteuse ou un chanteur qui chante du Piaf. Alors on s'est dit, mais mon Dieu, Aya Nakamura, cette franco-malienne qui chanterait du Edith Piaf, c'est inacceptable.
On a trouvé des mots d'Edith Piaf.
Écoutez ce que dit, qu'est-ce qui a fait cette chronique, les amis?
Je suis pas ta catin.
C'est Anthony Martin d'RTL qui... Voilà, c'était écoutez bien, deux chansons analysées, l'une d'Edith Piaf et l'autre de d'Aya Nakamura.
Pour trouver ça, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Écoutez.
Ma coupe d'aronne par la patronne, tu vas danser en vitesse et comment? Pour me nourrir, ma mère de 24 ans, et moi depuis, je suis devenu un bourrien.
Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, crache encore, Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras au
voilà. Je sais pas si vous avez compris, Thierry, en fait, il y a deux chansons. L'une d'Edith Piaf qui s'appelle Les Hiboux, qui date des années 30, et l'autre d'Aya Nakamura. Pourquoi je vous ai passé ces deux chansons?
Parce qu'il y a les paroles, il y a les mots
similaires. Parce qu'elles utilisent l'une et l'autre, deux mots, daron et tapin, hein,
catin.
Et daron et catin, voilà, qui veut dire, en gros, vous connaissez mieux que moi. Bon, bref. Donc, c'est intéressant parce que, à 36, à presque un siècle d'écart, 80 ans, elles utilisent les mêmes termes argotiques.
Il y a deux termes sur le répertoire de Aya Nakamura. Effectivement, il a fallu faire de la recherche pour retrouver ces paroles-là. Mais quand on écoute la chanson d'Edith Piaf, ça part d'une misère humaine que sa mère avait fait la catin. Catin, effectivement, dans l'argot, tout le monde le connaît en français, c'est prostituée. Donc, Aya Nakamura, c'est je suis pas ta daronne, je suis pas ta catin. Donc, oui, c'est deux paroles, deux mots similaires, mais je veux dire, le sens de la chanson n'est pas le même.
Mais on dit juste qu'elles utilisent un territoire argotique qui a un siècle d'écart, presque un siècle, et comment c'est singulier, c'est une preuve de rien du tout, c'est une démonstration de rien du tout. Je voulais juste vous faire partager ça avec vous. Bon, merci Thierry. 3210, vous nous appelez. Aya Nakamura, évoquée une seconde fois ce matin par le président de la République pour chanter pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Elle n'a pas dit oui, ça n'est pas officiel, mais ça fait quand même deux fois que Macron en parle. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, Jérôme de Quimper. Je voulais réagir par rapport à une éventuelle participation d'Aya Nakamura. Pourquoi pas, après tout, si elle accepte, et ce qui n'est pas encore le cas, ça voudrait dire qu'elle se sent avant tout française, et tant mieux. Donc voilà, on peut très bien lui laisser une place à la cérémonie d'ouverture. Moi, ça ne me choque absolument pas.
Voilà, Patrick, est-ce que vous êtes choqué, vous, mon cher Patrick, vous êtes plus de Bretagne également, tiens, vous avez fait le 32-10, est-ce que vous êtes choqué par ce choix qui pourrait se dessiner dans les prochains jours ?
Bonjour monsieur Brunel. Moi ce qui me choque, c'est toute cette cabale contre cette jeune femme qui est une véritable artiste. Je remets les choses dans le contexte, hein. Je me présente, Patrick, 62 ans, agriculteur, je ne suis pas de la génération de cette jeune femme. Mais je considère que, effectivement, c'est une des plus reconnues au monde, chanteuse française reconnue au monde, et qui devrait être censée interpréter des textes de Piaf lors des JO. Mmh. Et ce qui me gêne dans toute cette polémique, c'est que les arguments qu'on oppose à cette jeune femme, c'est que ses textes à elle ou ce qu'elle chante, enfin son répertoire, est parfois peu compréhensible. Mais c'est hors sujet. C'est absolument hors sujet. C'est une artiste qui a une belle voix, qui est reconnue dans le monde entier. En plus, pour ne rien vous cacher, je trouve que c'est une très jolie femme. Et donc, elle est en capacité totale de représenter la France, vu qu'elle est déjà reconnue dans le monde entier.
Oui.
Et en plus, elle a des textes de Piaf. Non,
elle n'a pas des textes de Piaf. Elle a elle a cet argot parisien qu'elle utilise parfois comme Edith Piaf, mais elle n'a pas des textes de Piaf. Mais on lui demanderait
peut-être de
chanter une chanson.
Il m'avait semblé comprendre qu'on lui demanderait de chanter une chanson.
Peut-être. Ça va demander des questions. Bon, alors on a compris. Alors c'est marrant parce que Patrick, c'est pas du tout son monde. Il est agriculteur du côté de Saint-Malo. C'est pas son monde, mais il dit soyons plus ouverts et c'est une vraie star mondiale. Faisons-lui de la place. Voilà. France a fait le 32-10. Bonjour, ma chère France.
Bonjour.
Est-ce que vous avez envie de voir Aya Nakamura chanter pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris ?
Alors, tout à fait. Je trouve qu'elle y a sa place. Je suis comme votre auditeur précédent. Ce n'est pas du tout mon style de chanson. Je n'aime pas la personne. Je n'aime pas ses chansons en elle-même. Par contre, elle a une voix qui est magnifique. C'est une très belle femme. Elle a un charisme fou. Et elle y a toute sa place. Chanter du Piaf, pourquoi pas ? Et pourquoi pas chanter autre chose aussi ? On ne sait pas, on ne connaît pas du tout son monde musical, qui peut être, ça se trouve, très large. Et je pense qu'on oublie trop que quelques années auparavant, il y a d'autres chanteurs qui sont connus en France, que personne n'a fait de polémique dessus, qui a aussi utilisé de l'argot, qui ont été insolents dans leurs chansons, comme on peut parler de Renaud, de Brel, de Brassens, de Gainsbourg, et d'autres, j'en passe, ouais. Diane, NTM. Ouais. Et personne ne disait rien à ce moment-là. Pourquoi on fait cette polémique aujourd'hui?
Je vais prendre Sophie, mais vous avez raison. Moi, je me souviens d'une tante qui me disait, faut pas écouter Coluche, ça n'a rien à voir avec la chanson, mais parce qu'il dit vraiment trop de gros mots, il n'ira pas loin, il est vulgaire, etc. J'étais tout petit. C'est quand même assez savoureux de penser à ces premiers sentiments, ces premières impressions que les gens ont. Sophie a fait le 32-10 aussi. Merci France, hein.
Oui, merci à vous.
Merci. Bonjour oui. Sophie.
Bonjour monsieur Brunet.
Alors, Aya Nakamura ou pas? En juillet.
Pour moi, non. Non.
Pourquoi ?
Pour moi, non. Parce que j'estime qu'on a suffisamment de chanteurs français qui chantent merveilleusement bien pour mettre une personne qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit.
Mais etc. Elle est française, Aya Nakamura.
Oui, non, mais j'ai pas
Sophie.
Dit ça. Oui, oui, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'elle dit. Les mots qu'elle dit dans ses chansons, j'ai essayé d'écouter, c'est une catastrophe. On ne comprend rien. Non, non, moi je suis contre. Vous avez un Pagny, vous avez un Bruel, vous avez un Sardou, vous avez, comme disait votre auditeur, Chimène Badi, qui a fait un album sur Piaf, qui chante merveilleusement bien. Voilà.
Et vous avez vu que pour le 1er avril, je crois que c'est le quotidien 20 minutes, qui a dit, finalement, ce sera Aya Nakamura et Michel Sardou qui chanteront ensemble, et comme un bonnet, je l'ai cru. Je l'ai même répété à 2-3 personnes, et il y en a un qui m'a dit, tu réalises pas qu'on est le 1er avril, Eric? Ouais. Chimène Badi a fait un album sur Piaf, vous avez
mais
raison,
mais
moi j'aime beaucoup Chimène Badi. Hein, beaucoup.
Mais bien sûr, elle chante merveilleusement bien. C'est quand même autre chose que Nakamura.
Ouais,
pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo.
Oui, Nakamura, c'est une artiste qui. C'est pas une artiste qui fait des textes dont la finalité, c'est la chanson réaliste, ou même comme Barbara Pravi, vous vous souvenez.
Ah, tout à fait.
Voilà, on n'est pas sur ce registre-là.
Ouais, ah, ben, bah, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Voilà. Bon.
Donc, donc, Sophie, vote contre.
Ah oui, contre moi.
Notre agriculteur contre. De Saint-Malo vote pour. Et Sylvie est assez... qu'est-ce qu'elle dit, Sylvie? Bonjour, Sylvie.
Bonjour. Bah, Sylvie, elle est contre. Mmh. Sylvie, voilà, elle est comme Sophie. Je ne comprends... D'ailleurs, même son nom, je ne m'en rappelle jamais.
On a déjà du mal à dire. Ouais.
On a du mal à l'entendre. Et pour moi, j'estime que ces JO, c'est un blasphème complet envers le français. Et ce n'est pas une question de racisme. Mmh. Je suis française. Je ne suis pas d'origine française, donc... de racisme, soit ce serait compliqué.
Mais vous voulez qu'on ne maltraite pas la langue française, c'est ça?
La langue française, elle est maltraitée. Les JO, j'ai l'impression que c'est tout et n'importe quoi. Que ce soit les JO, les Français peuvent même pas y participer tellement c'est hors de prix. La chanson, c'est du n'importe quoi. Le métro, ça explose dans les tarifs. Donc, j'ai l'impression que nous, Français, on est exclus de ces JO. Et là, c'est le pompon, quoi. Cette chanteuse, elle a sûrement des personnes qui l'aiment, qui l'apprécient, ok. Mmh. Mais de nous dire qu'elle représente la France, non. Mmh. On a énormément d'artistes, et puis surtout...
C'est la plus écoutée sur Internet, hein. C'est la plus écoutée sur Internet,
mais...
sans doute par des très jeunes qui aiment ce nouvel
argot. Par des très jeunes, moi, j'ai mon fils qui a 22 ans.
Il n'écoute pas Nagel Nakamura.
Il n'écoute pas. Bon. Il me dit, je ne comprends pas, c'est... Si on a le rythme, son style, pourquoi pas? Mais il y a d'autres
choses. Merci, merci Sylvie. On a compris, vous faites partie de la team anti-Aya Nakamura. Là, on est sur un 2-1 sur la dernière minute. Hein. Patrick, d'accord. Sylvie, Sophie, pas d'accord. Bon, merci les amis pour vos appels. Je vois rentrer dans le studio Cyprien Sini. Bonjour Cyprien.
Bonjour Dja.
Vous avez oublié quelque chose. C'est quoi Dja? Parce que en argot, le vieil argot parigot, le Dja, c'est le vin rouge. Hein.
Non, là c'est un garçon quoi.
Un garçon, Dja, ouais. Il s'appelle Dja. Ouais. Ouais. Vous décryptez, vous parlez le Aya Nakamura.
J'essaye, j'apprends, je me mets à la page. Moi j'ai une fille de 15 ans qui aime bien, de 10 ans qui aime bien Aya Nakamura. Le garçon de 15 ans, moi.
Voilà. D'accord.
Non, moi je viens vous parler d'RTL Bonsoir aussi.
Ah bon? Vous travaillez.
Oui. 18h, 20h tous les soirs, on sera au plus près de l'affaire Samara, vous savez, cette jeune fille tabassée à Montpellier. Ouais. On vous racontera les dessous de la vente à 10 000 euros du fameux scooter de François Hollande, qui s'était retrouvé à la une de la presse People, vous vous souvenez évidemment.
La rue du Cirque.
Et puis après, exactement, à 19h10, Philippe Perrin, le spationaute, va nous emmener en apesanteur. Et puis on vous fera gagner un très beau cadeau, un week-end en famille au Futuroscope dans le grand quiz RTL Bonsoir. Ça sera en fin d'émission pour vous inscrire. 3210, le standard est maintenant, ou le SMS 64900. Vous envoyez bonsoir.
Merci Cyprien. Tout de suite, l'auditeur du bout du monde avec peut-être un indice sonore.
Oui, avec ce titre, vous devriez trouver la destination de notre auditeur du bout du monde.
Ça y est, trouvez.
J'ai le pays, mais j'ai pas la ville. Hein.
Trouvez.
Non, le pays, ça suffit. Le pays, ça suffit. Vous nous écrivez sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Victor, j'ai trouvé, je suis sûr qu'on va en Afrique du Sud.
Exactement, et c'est David de Saint-Paul-sur-Mer qui remporte un guide du routard.
Et c'était Simple Mind qui chantait Mandela Day. Allez, c'est parti.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour.
Où est-ce que vous êtes en Afrique du Sud, mon cher Julien?
Je suis dans un petit village qui s'appelle Rivière-Castil, qui est à 50 minutes du Cap.
De Cape Town. Vous êtes dans la zone où on fait du vin?
Exactement, en plein Swartland, qui est une très belle région de vin.
Ah, incroyable. Dites-nous ce que vous voyez si vous mettez la tête par la fenêtre.
Je vois la terrasse de mon restaurant-brasserie. Et je vois les quelques clients qui sont attablés.
Il n'y a pas un gros décalage horaire, je sais, avec l'Afrique du Sud.
Je crois qu'on est à la même heure, là.
On est à la même heure.
Il y a une heure de différence.
D'accord, une heure.
Il y a une heure de différence.
Ouais. D'accord. Donc, vous êtes parti de France pour monter un resto? dans la campagne, pas très loin du Cap, de Cape Town, en Afrique du Sud.
Exactement.
Pourquoi avez-vous fait ça ?
Par passion pour l'Afrique du Sud et par passion pour la gastronomie française.
Qu'est-ce qui vous passionne dans ce pays mystérieux qu'est l'Afrique du Sud ?
Sa complexité, ses habitants qui sont attachants et c'est un pays qui est très complexe politiquement, géographiquement, et qui est tellement diverse. C'est pour ça que j'y suis resté.
Qu'est-ce que vous leur faites à manger à ces Sud-Africains ? Vous jouez à mort l'image de la gastronomie française ?
Alors, j'avais un autre restaurant il y a quelques années et depuis 4 ans, je joue à mort la gastronomie française, mais qui est plutôt la brasserie française, sans complexe, complètement décomplexée. Et je m'aperçois qu'en fait, c'est d'une popularité et les gens adorent ça.
Alors, comment s'appelle votre restaurant et c'est quoi le menu, le plat du jour ?
Alors, en ce moment, le plat du jour aujourd'hui, c'est un steak de thon du Cap. Et le nom du restaurant s'appelle le Au Bouchon Rouge.
Ah oui, vous jouez le folklore bistrot que j'imagine les Sud-Africains doivent adorer. Alors oui, très bien, steak de thon. Qu'est-ce qu'il y a à la carte ? Parlez-nous de votre carte, de quelques plats un peu emblématiques du Bouchon Rouge.
Alors j'ai en entrée j'ai une terrine que je fais, une terrine de springbok et de porc. J'ai des huîtres. J'ai un ostréiculteur qui est extraordinaire, qui est à 50 minutes de chez moi. J'ai des huîtres, des moules, j'ai de la bavette dans tout ce qui est bœuf, de la bavette, j'ai de l'entrecôte, mais c'est tous les plats, les escargots bien sûr en entrée, mais c'est les plats qu'on trouve en brasserie en France et qu'on a tendance un peu à oublier. Je fais plus du tout ce que je faisais pendant des années, du burger, de la pizza, c'est terminé. Je ne fais que des plats français et sans être arrogant ou quoi que ce soit. Et je me rends compte en fait que c'est très populaire. J'ai fait des jambon beurre pour le déjeuner, je fais des pambagnas en été. On s'aperçoit en fait qu'on n'a pas besoin, on n'a pas avoir honte d'être français ou avoir peur de la cuisine américaine avec les burgers ou de ce qui est italien avec les pizzas.
Très bien. Voilà quelqu'un.
Ça marche très bien. Ouais.
Voilà quelqu'un qui utilise l'image magnifique de la France à l'étranger et qui en a fait un business. Et vous avez raison de vous recentrer là-dessus parce que cette bistronomie, cet amour des petits estaminets, des petits bistrots français, il est partagé par tous les gens dans le monde entier. Merci à vous, Julien. C'était chouette ce petit clin d'œil, cette petite photographie depuis Riebeek Castel, pas très loin de Cape Town, dans le sud de l'Afrique du Sud. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour Éric Brunet.
Que se passe-t-il dans un instant ?
On va en Gironde avec cette question. Qui a tué Nathalie Espagnier ? C'est un cold case et c'est un secret de famille. À tout de suite.
On vous écoute. Bel après-midi sur RTL. Pardon. Moi, je vais me soigner. Et
demain, ce sera Vincent Parisot.
L'ami Vincent Parisot qui va arriver à point nommé parce que je ne sais pas si je vais survivre à cette soirée.
Merci. Salut. RT.